Shelly, merci Denis, toute l'équipe. Merci au Seigneur pour sa présence. Il fait tellement bon être dans la présence de Dieu. C'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on veut toujours plus, tant personnellement qu'en tant qu'Église. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse vraiment poursuivre dans cette lancée, dans le message qui vient maintenant. Et plutôt qu'un enseignement, cette fois, je vais davantage partager une pensée du cœur de Dieu. Une pensée qui vibre dans mon cœur pour 2024, et je crois que c'est vraiment ce que Dieu désire pour cette saison. Personnellement, ce que j'aime, c'est vraiment ça que j'aime avant tout, et c'est ce qu'on a pu vivre. J'étais tellement touché, il y a plusieurs choses qui ont été dites par ceux de la louange ou par des pensées qui vont revenir dans ce message. C'est quand on voit que Dieu, il a une intention, je suis vraiment touché de ce qu'on a pu vivre, le temps qu'on a pu vivre. Et l'autre jour, j'entendais quelqu'un qui disait cette phrase connue que vous connaissez aussi certainement, « Être chrétien, ce n'est pas une religion, c'est une relation. » Et on l'utilise souvent, même nous-mêmes, pour expliquer ça aussi aux non-croyants de ce qu'on vit. Mais on pourrait aussi aller dans ce sens en disant qu'être chrétien, ce n'est pas une connaissance, ce n'est pas de la connaissance, mais c'est une relation. Être chrétien, grandir avec Dieu, c'est être connecté à la vie de Dieu, plutôt que d'assimiler des informations. C'est toucher Dieu et être touché par Dieu avant de la théorie, avant des principes. Et ce matin, j'ai envie non pas qu'on emmagasine plus d'informations et puis que dans l'encyclopédie de ce qu'on connaît de Dieu, on ait une page de plus quand on part tout à l'heure et puis qu'on sait quelque chose juste de plus, mais que véritablement, on touche à la vie de Dieu et qu'on se laisse toucher par le cœur de Dieu. Et connaître Dieu, ce n'est pas une connaissance. Ce n'est pas une connaissance, mais c'est être uni. C'est être uni au cœur de Dieu. Lui parler, l'entendre, c'est une révélation dans l'esprit et c'est une réelle amitié. Et comme ça a été dit, une amitié avec le Jésus d'aujourd'hui. Pas l'image qu'on se fait d'il y a 2000 ans, mais de ce Dieu vivant d'aujourd'hui. Et ce matin, qu'on puisse vraiment se laisser toucher par ce cœur de Dieu et faire un pas de plus, vraiment un pas de plus dans la relation avec Dieu. Et je sens vraiment, ça insiste dans mon cœur et ça a pu être dit aussi par les différentes pensées. Mais j'aimerais quand même aller dans ce sens encore un petit coup avant d'aller dans le message. Qu'importe où tu en es aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'avancer et de faire un pas de plus. Un pas de plus avec Dieu ce matin et chaque jour. Peut-être que tu connais le Dieu de tes parents, tu connais la théorie, mais Dieu veut que tu fasses peut-être ce premier vrai pas de le rencontrer comme une personne. Peut-être que tu découvres Dieu, que tout est tout nouveau pour toi ici, et Dieu désire que tu puisses faire ce premier pas. Peut-être que tu t'es éloigné avec les années, et aujourd'hui peut-être que c'est le pas du retour à la maison, à faire vers le Seigneur. Peut-être que tu chemines fidèlement avec le Seigneur depuis X années, et ce matin, Dieu t'invite à faire un pas de plus dans sa direction, de continuer d'avancer. Parce qu'on peut être très avancé avec le Seigneur. Si on ne fait pas de nouveaux pas, ça veut dire qu'on est arrêté. Et peut-être que le nouveau qui découvre le Seigneur, il peut nous dépasser, il peut avancer plus vite que nous. Ce qui compte, ce n'est pas où on en est, mais c'est d'avancer vers le Seigneur. Et je vais prier. Seigneur, je te prie, je te remercie parce que ce matin, il y a eu vraiment une direction de ton esprit pour se donner à toi, pour revenir à toi, pour être touché par toi. C'est parce que tu nous aimes tellement, t'as payé tellement cher ce prix pour avoir cette amitié de père-fils, père-fille, pour avoir ce contact ensemble. Et Seigneur, on désire faire ce pas et venir vers toi. Et avant de poursuivre, si dans ton cœur, dans les différentes pensées prophétiques qui ont été données, juste ces premiers mots que j'ai dit, ça résonne dans ton cœur, tu puisses dire oui. Oui, je veux faire ce premier pas vers Dieu. Oui, je me suis éloigné, j'ai un peu laissé ça de côté, j'ai laissé de la poussière, je veux revenir vers Dieu. Oui, je connais tellement de choses, je suis tellement blasé, je me demande encore ce que je vais pouvoir un petit peu être surpris puis apprendre. J'attends d'apprendre du nouveau. Mais avant ça, Dieu, il te dit, mais fais un pas dans ma direction. Tu puisses répondre dans ton cœur. En tout cas, pour ma part, Seigneur, j'ai vraiment envie de faire un pas de plus ce matin et dans ma vie, et cette année, et dans la semaine qui vient, un pas de plus avec toi dans ta direction. J'ai tellement plus à découvrir, et tu as tellement plus aussi à me faire vivre, et à faire vivre aux autres au travers de moi que je veux te dire oui ce matin. Alléluia. Et Seigneur, je te prie que ta vie, je veux libérer la vie dans cette salle, dans nos cœurs. Je prends autorité contre tout esprit de religion, de religiosité, contre tout esprit de raisonnement qui empêche de recevoir la révélation de Dieu. Au nom de Jésus, je libère la vie ici, dans cette atmosphère, dans cette vie. En abondance, la vie en abondance. Et que tout ce qui est mort revive au nom de Jésus. Alléluia. Alors on peut rester encore en prière. Je voulais vraiment vous transmettre cette pensée prophétique que j'ai simplement j'ai noté, que je vous retransmets simplement. Si vous voulez garder les yeux fermés, vous pouvez. Et puis ensuite, on développera le message dans ce sens un peu particulier. Mais je sens quand le Seigneur veut parler, il désire le faire. Et je veux simplement être fidèle et transmettre ça. Et je sentais vraiment cette pensée où Dieu disait que cette année, c'est une année d'accomplissement. Là où on voit ce qui est semé, pousser. Là où on voit ce qui est nettoyé, briller. Là où on voit ce qui est entraîné, grandir. Ma puissance de création est là, celle qui fait croître, celle qui fait grandir, celle qui fait sortir les plantes du rocher. Elle est présente dans le monde naturel, mais elle est présente aussi dans le monde spirituel. C'est une puissance qui est là dès la création, et c'est un principe de mon royaume. Dans mon royaume, ce qui est semé pousse, ce qui est entretenu porte du fruit, ce qui est taillé porte encore plus de fruits, et le fruit produit la graine, et la graine semée pousse, et il y a une puissance de vie en moi. Et lorsqu'on se connecte à ma vie, à un moment donné, tout ce qu'on touche prend vie. La tâche de l'agriculteur ou du responsable du verger ou encore du vigneron, c'est pas de faire pousser. Il peut pas produire du fruit. Et même ceux qui le font artificiellement en trafiquant des graines, c'est ma vie, c'est toujours ma vie qui fait pousser. Cette puissance de créature, de création, cette puissance de création dans la nature, elle est la même dans mon royaume. Et c'est dans ça que je désire faire entrer mon peuple. Ce que je désire, ce sont véritablement des paroles d'autorité qui dégagent le terrain, le ciel, afin d'œuvrer pour mon royaume. Et si le semeur prend autorité, plutôt que de subir le climat, ça dégage l'atmosphère. Et ça va permettre d'œuvrer pour mon royaume. Et ça commence par semer, arroser, entretenir, tailler. Le semeur va moissonner, non pas quand il pleut ou en pleine tempête, mais spirituellement, c'est pareil. L'atmosphère dégagée, un ciel ouvert, va permettre, si ce n'est de semer, justement de moissonner. Et il est temps de ne plus subir les atmosphères. Mais connecté au Père dans le ciel, c'est le temps de semer. C'est le temps de semer, d'entretenir, d'herber les parasites, de tailler et de moissonner. Saisissez l'autorité que vous avez au ciel. C'est un tremplin pour cette année 2024. Pour semer des prières de salut, pour semer des prières de guérison, pour semer des prières de délivrance, pour semer des prières qui changent des situations, des paroles de vie à des personnes ou dans des endroits. Et le ciel ouvert, il permet au terrain d'être touché par cette puissance d'accomplissement, d'exaucement, cette puissance de guérison, cette puissance de résurrection, cette puissance de délivrance, cette puissance d'amour. C'est ça aussi mon royaume. Et lorsque ces semences, elles éclosent, elles produisent du fruit à moissonner. Profitez, entre guillemets, que le ciel soit ouvert pour semer, pour moissonner. C'est le temps de semer. Amen. Amen. C'est tellement encourageant. Merci Seigneur pour cette pensée. Mais c'est vraiment, je trouve, la suite de ce qu'on a pu voir et vivre aussi tout l'automne passé. C'était tout un processus avec les différents messages. Ne pas juste nous battre contre des circonstances de la vie, les aléas du climat de notre vie, des circonstances, ou même les aléas du climat spirituel. Ça peut être des fois le découragement ou bien une couche de nuages telle qu'on a des fois l'impression que Dieu il nous entend pas quand on parle. Et puis quand il parle, nous on l'entend pas souvent. Ne pas subir, comme on a vu dans la Bible, notamment dans le récit de Daniel, ces combats dans les lieux célestes, ce deuxième ciel où il y a comme une interférence entre nous et Dieu, des oppressions parfois, des verrous. Et c'est tout quelque chose que j'ai développé dans un des messages que vous pouvez réécouter sur le site, mais de véritablement se connecter au Père, et comme Paul l'appelle ce troisième ciel, d'être assis avec Christ dans les lieux célestes et de régner, c'est notre position d'autorité pour l'entendre nous parler et pour agir, pour prier, pour intercéder. Et c'est tellement encourageant avec cette pensée du Seigneur qui nous fait avancer. Moi, j'ai l'impression qu'il nous fait vraiment avancer quelque part. Ce n'est pas juste tout à coup, il y a quelque chose qui est dit, puis autre chose. Puis, de ce que je sens que Dieu veut pour cette année, c'est vraiment la suite. Parce que qu'est-ce qui se passe quand le ciel est ouvert, quand sa présence est là? À un moment donné, il faut agir, il faut semer. Et c'est le temps de semer des paroles de vie dans le concret de la vie autour de nous et de moissonner. Et c'est ça, moi, ça, j'aimerais vraiment le saisir pour cette année. On vous présentera plus tard dans les annonces les différents groupes de ressources qu'on a pour cette nouvelle saison. Là aussi, c'est intentionnel d'être connecté au cœur du Père et aussi d'agir, de combattre, de semer. Je n'ai pas envie de faire une page de pub dans un message, mais comprenez l'intention qui vibre dans nos cœurs avec ces groupes ressources. On a choisi ce modèle d'église de faire que 2 cultes par mois, ici tous ensemble, réunis à une telle force quand on est ensemble, et de faire aussi 2 fois par mois l'église dans les maisons, ces groupes de ressources où ensemble on peut avancer dans cette tête, dans cette direction, dans ce que Dieu met dans notre cœur. Et c'est un modèle d'église, il y en a d'autres, mais c'est le modèle qu'on a à cœur pour l'instant, et c'est comme les 2 jambes, on avance ces 2 façons dans ce que Dieu veut. Et je vous encourage à vivre l'aventure des 2 pieds et à aller ensemble quelque part. Début décembre, je vous fais un petit parcours quand même comment Dieu nous a parlé ces derniers temps par rapport au message que je vous partage. Début décembre, on a pris 3 jours de retraite avec notre team leader au large, loin de tout. Et on a pu prier, se bénir, prier pour l'Église, prier pour cette année qui vient. Et je ressentais ces paroles. C'est le temps, avec un ciel ouvert, on venait de faire plusieurs messages là-dedans, de semer et de moissonner. Et vous avez compris que c'était le titre du message. Et un des premiers jours de l'année, le 4 janvier d'ailleurs, j'ai reçu cette pensée que je vous ai partagée juste maintenant, que je vous ai comme lu cette pensée prophétique. Et en tout début d'année, 2-3 jours après, on se retrouve tous les 15 jours avec la team leader, les responsables de différents secteurs. Et j'avais vraiment à cœur qu'avant qu'on parle d'organisation, de planning, de date et de toutes ces choses, qu'on se place devant Dieu, qu'on soit simplement là pour lui, qu'on se laisse toucher par lui, qu'on se consacre à lui avant toute autre chose. Et on a pu partager cette pensée de semer, moissonner, on a prié, partagé ensemble, on s'est béni, on a pu construire, Dieu a parlé à chacun. Et c'est vraiment dans ce sens que ça s'est aussi précisé. Et c'est ce qui résonne dans notre cœur pour 2024. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a vraiment une intention de Dieu. Il y a 2 semaines, Marc-André Stubi, qui vient du Chablais, qui vient de tout ailleurs, il vient avec un message. D'ailleurs, il m'avait dit il avait un autre thème, il a changé son message 2-3 jours avant, avec ce titre, « Défricher un champ nouveau ». Et avec ce verset dans Osée 10, 12, où il est dit « Semez pour la justice, moissonnez pour la bonté, défrichez-vous un champ nouveau, c'est le moment de rechercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et déverse pour vous la justice. » Et il nous a parlé de sillon nouveau, de semer, de moissonner. Je trouvais juste hallucinant, parce que la pensée que je vous ai partagée juste avant, Dieu nous avait déjà parlé, je l'avais déjà écrit. Et moi, je ne crois pas au hasard. 1 ou 2 jours après, suite à ce message, Gabriel m'envoie un WhatsApp d'un message d'un psaume, le psaume 65, qui lui a parlé, qui dit « Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes. Tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. » Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment et les cris de joie et les chants retentissent. Alléluia. Et ce matin, je vous explique justement un peu ce processus, cette pensée de Dieu, là où Dieu désire nous amener plutôt qu'un enseignement en 12 points et demi. Mais je trouve tellement important de voir comment Dieu nous dirige, comment il nous parle dans le concret de la vie de tous les jours. Il y a des milliers de messages, des centaines qui sont super à gauche, à droite, à écouter. Je suis le premier à en profiter. C'est vraiment génial. Mais quand on est planté dans une famille spirituelle, puis qu'on voit qu'il y a une intention, une direction, et que Dieu désire quelque chose pour un groupe, à un moment donné, à un lieu donné, c'est tout autre chose. Quelque chose qui vient simplement pour des gens ailleurs. Et pour couronner le tout, il y a quelques jours, Shelley, elle est interpellée par un passage de la Bible qu'elle nous a communiqué, j'ai trouvé juste fou. C'est un signe de Dieu, c'est vraiment hallucinant, dans Ésaïe 37, verset 30, qui dit la chose suivante. Voici ce qui te servira de signe. On mangera cette année ce que produit le grain tombé en terre, et une deuxième année ce qui pousse tout seul. Mais la troisième année, semez, moissonnez, plantez des vignes et mangez-en le fruit. Les rescapés de la communauté de Juda, ceux qui seront restés, plongeront de nouvelles racines vers le bas et porteront du fruit vers le haut. Et par rapport à ce que Dieu nous avait déjà dit jusque-là, je trouvais juste fou, alors qu'on est en train de vivre notre troisième année d'église. Ça fait 2 ans et quelques qu'on est dans notre troisième année d'église. Et ce passage qui dit « Voici ce qui te servira de signe, la troisième année, semez, moissonnez, plantez des vignes et mangez-en le fruit. » Dieu nous parle, Dieu a envie, alors qu'on a été dans ce sens d'un ciel qui est ouvert, dégagé, de ne pas subir ces atmosphères. Mais à un moment donné, quand on est dans sa présence, il a envie qu'on sème, il a envie qu'on communique cette vie. Gloire à Dieu. Quand il parle vraiment si précisément, il est avec nous dans cette aventure d'Église. Et je crois plutôt que c'est nous qui essayons de le suivre dans son aventure. Mais avant de poursuivre, j'aimerais poser un fondement. Il y a une puissance de vie dans la nature. Lorsque le climat est propice, les choses, elles poussent toutes seules. Avant d'aller plus loin et de développer justement un peu les différents points de cette parole prophétique, je vais prendre 2 exemples tout concrets. Ce n'est pas du Costa Rica ou d'Australie, c'est chez moi. L'été, il y a 2 ans, on est parti en vacances au sud de la France. Puis tout près de l'immeuble où on logeait, il y avait tout un endroit, un talus avec des magnifiques cactus. Puis en rentrant chez moi, je me suis dit ici, ben, ça serait cool d'acheter quelques cactus. Comme ça, je vais me croire en vacances chez moi. Alors c'est un leurre, hein, parce qu'il faut quand même travailler, mais ne me le dites pas, je n'ai pas envie d'être déçu. Mais du coup, sur un rebord de notre cage d'escalier qui descend à l'étage d'en bas, il y a quelques cactus que j'ai mis. Malheureusement, donc ça fait environ 2 ans et demi, malheureusement, il y a 6 mois, l'été passé, quelqu'un a fait tomber un de ces cactus. Vu que j'ai la culture de l'honneur, je nomme personne. Ça a non seulement blessé mon cœur, mais ça a surtout blessé le sommet du cactus. Mais alors on voyait qu'il était comme un petit peu entamé, enfin un jeton, comme on dit en bon neuchâtelois, mais il a commencé comme à mourir par le dessus. Et je vous montre la photo. Donc voilà. Et voilà, il était toujours là, parce que ça ne s'arrose pas trop souvent, donc je l'ai laissé avec les autres. Mais j'ai quand même hésité 2-3 fois à le jeter, vu qu'il n'allait plus grandir. Et voilà que l'autre jour, à ma grande surprise, il y a ça qui a poussé. J'ai vu sa queue il y a 2-3 jours. Alors que sa blessure, elle semblait mettre fin, si ce n'est à sa vie, mais en tout cas à sa croissance, la vie est plus forte. La vie, elle est plus forte que d'être comme coupé de sa tête ou de plus pouvoir aller de l'avant. Il y a une nouvelle bouture et il y a une puissance de vie dans la nature, dans le monde naturel. C'est une puissance qui ne s'arrête pas. Et c'est juste un exemple. Chez moi, il suffit de se promener dehors, puis vous pouvez voir aussi d'autres exemples. Dans le monde naturel, c'est une image du monde spirituel. C'est un reflet. Mais il y a une puissance dans le monde spirituel, dans ce ciel que Dieu veut semer sur la terre. Chez nous, on a aussi une quantité d'orchidées. Alors, ça fait un peu cliché. Monsieur a des cactus, madame des orchidées. J'aime aussi les orchidées. Mais il y en a une qui est tombée. Décidément, on découvre un peu la gravité chez les Guyas. Là, je crois que ça devait être le chat. Et il y a une branche qui s'est cassée. Et là aussi, il y a une bouture qui a poussé juste avant la... vous voyez là où c'est cassé, il y a une nouvelle bouture qui pousse. La vie, elle continue. Alors, c'est moins exceptionnel pour une orchidée, donc ça m'a moins surpris. Mais on voit que quand il y a quelque chose, la vie, on ne peut comme pas l'arrêter. Comme ce psaume 65 qui dit que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et un ruisseau, ça ne s'arrête pas, c'est super dur. Si vous voulez arrêter un ruisseau qui coule, essayez, quand on est enfant, de mettre des petits barrages et autres, des cailloux, ça se faufile. La vie, elle continue, elle se faufile. Et à ce propos, la phrase de l'essayiste philosophe américain Ralph Emerson, elle est intéressante, où il dit « la nature, elle se précipite. La nature se précipite jamais. » Ah, c'était avant. « La nature ne se précipite jamais et pourtant tout est accompli. » Tout est accompli. Cette puissance de vie sur la terre, qu'on vient de parler, hein, c'est juste deux plantes chez nous, mais c'est que le reflet, le pâle reflet de cette puissance de vie qu'il y a au ciel, vers le trône de Dieu. et qu'il désire qu'on puisse semer ses pépites sur la terre. On voit dans Ésaïe 40, au verset 22, il est dit « C'est lui qui est assis au-dessus du globe de la terre. » Désolé s'il y a des platistes aujourd'hui, la terre est ronde. Enfin, il est assis au-dessus du globe. Et le verset 26, il est dit « Élevez vos yeux en haut et regardez, qui a créé ces choses ? C'est celui qui a fait sortir leur armée par ordre et qu'ils appellent toutes par leur nom. Il n'y en a pas une qui manque à cause de la grandeur de ses forces et parce qu'il excelle en puissance. » Il excelle en puissance. Dieu est là dans sa puissance, dans son ciel. Et j'aimerais qu'on puisse voir, après cette première pensée prophétique, puis là, juste ce fondement de la puissance de la nature, de la vie dans la nature, comme troisième point, l'impact que ça a quand le ciel est ouvert. Alors, on en a un peu abordé dans des précédents messages, mais moi, ce qui me frappe, c'est vraiment que dans le monde naturel, dans ce premier ciel, pour le dire comme ça, l'agriculteur, il sème quand il y a des mauvaises conditions, ou quand ce n'est pas de la bonne terre, ou bien que le temps ou le climat il n'est pas propice, ça ne va pas ou peu pousser ou pas génial. Quoi. On connaît la parabole du semeur dans la Bible, je ne vais pas la développer plus que ça ce matin, où il parle de différentes terres qui sont propices ou pas pour le semeur, que ça pousse, mais aussi, je trouve intéressant, ça m'est venu que ce matin, mais aussi de ce qui pousse, ce qui se trouve dans le ciel, comme une interférence, ces oiseaux qui viennent voler ces graines. Le ciel n'est pas dégagé, puis ces oiseaux qui viennent voler ce qui a été planté. Par contre, lorsque le ciel est dégagé, pas comme ça, lorsque c'est ouvert, lorsqu'il est dégagé, puis qu'il n'y a pas ces interférences, comme on le lit dans Daniel, avec ses puissances et autres, ou ces oiseaux qui viennent voler des graines, ben, spirituellement, c'est pareil. Tu peux semer les mêmes semences, les mêmes graines, semer et parler de Dieu, semer en témoignant, semer en priant pour la guérison. Si le ciel est verrouillé et que le climat n'est pas propice, on ne va pas voir les résultats qu'on aimerait voir. Et pourtant, c'est des bonnes semences, c'est des bonnes choses, c'est des bonnes graines. Dans la parabole du semeur, c'est jamais remis en question, les graines. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que lorsque le ciel est ouvert, que le climat est propice, les choses, elles poussent. Elles poussent. Et ça veut dire que quand le ciel est ouvert spirituellement, c'est le moment de semer. Ce n'est pas juste de profiter du beau temps, mais c'est le moment de semer. Et rien n'arrête la vie une fois qu'on pousse ces semences-là. Et on va voir quelques exemples bibliques et la différence quand le ciel est ouvert ou pas. Lorsque le climat spirituel est ouvert ou bien lorsque c'est plombé. Par exemple, dans Matthieu 17, il est question d'un jeune qui est épileptique, mais d'une façon tellement grave qu'il tombe vraiment souvent. Et vu qu'il tombe souvent, là où ça inquiète son père, c'est que des fois, il tombe quand il y a du feu ou bien il tombe quand il y a de l'eau. Donc, c'est mortel, quoi. S'il tombe dans l'eau, dans un lac ou bien dans le feu. Et le père, il amène son fils vers les disciples. Mais il a dit au verset 16 que les disciples, ils n'ont pas réussi à le guérir. Et ils ont prié, je pense, tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont dû mitrailler dans la prière, vraiment un peu partout comme ça, sans succès. Et Jésus va leur dire plus tard que le climat était mauvais. Que j'ai expliqué après, mais c'est comme une couche d'incrédulité qu'il y avait, qui a verrouillé la vie et qui a empêché la puissance de guérison de se manifester. Et en même temps que cet épisode-là, Jésus, il était monté sur la montagne avec trois de ses disciples, avec Pierre, Jacques et son frère Jean. Et d'ailleurs, c'est un message en soi de voir combien de fois Dieu se révèle sur la montagne. Ce n'est pas pour rien que le psalmiste il nous dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours ?» C'est-à-dire vers Dieu, le lieu de secours. Et on voit la suite du psaume 121, toute l'atmosphère qui change, tout ce qui se passe. Mais le psalmiste, il parle pas juste de regarder la montagne physique, parce que du coup on est secouru, parce qu'il suffirait qu'on regarde Chaumont, puis tout va bien dans notre vie après. Ce n'est pas ça, c'est une image. Je lève les yeux vers les montagnes, vers ce Dieu, vers ce ciel où il y a Dieu qui siège en-dessus de ce globe. C'est là que vient le secours. Et puis qu'ensuite les circonstances changent. Rencontre avec Dieu, le ciel. Et alors là que les disciples sont en train de semer des vaines prières, puis essayer de prier pour cet épileptique de délivrance, ben Jésus va sur la montagne, il est justement sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, et là Dieu va se manifester d'une façon puissante comme jamais. Ils vont voir la gloire de Dieu. C'est spectaculaire, il y a de la lumière, et il y a même la voix audible de Dieu qui va parler, en disant que Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, et ils sont véritablement vraiment dans ce troisième ciel. Et lorsqu'ils redescendent de cette montagne, le père de ce jeune épileptique, qu'ils n'arrivent pas à guérir, il vient se jeter aux genoux de Jésus, vers les genoux de Jésus, et il va demander qu'il agisse. Et là, Jésus, il va dénoncer l'incrédulité ambiante, ce manque de foi qui a verrouillé l'action de Dieu. Et c'est pour ça que je me permets de parler comme d'une atmosphère d'incrédulité, parce que ce n'était pas juste les deux, trois disciples qui essayaient de prier et puis que ça ne marchait pas. Il dit, Jésus leur dit, « Vous, les gens d'aujourd'hui, vous n'avez pas la foi. » C'était comme quelque chose de global, de général. C'était le climat. Il n'y avait pas un climat de foi. Il n'y a personne ici pour croire. Et le verset 18 nous dit, « Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. » Jésus, il n'a pas réussi à guérir cet épileptique juste parce qu'il était Dieu. Rappelez-vous, dans la Bible, dans Philippiens 2, 7, il est dit qu'en venant sur terre, Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Si Jésus a réussi à guérir ce jeune gravement malade, une maladie vraiment neurologique grave et même en partie un peu psychique, une épilepsie aggravée, c'est parce que Pierre, Jacques et Jean, ensemble, ils étaient montés vers le Père, une manifestation de Dieu vers ce troisième ciel, et qu'ils ont été touchés par la gloire de Dieu. Et ils redescendent de la montagne, boostés, remplis de foi. Et comme nous, quand vous allez au soleil puis que vous redescendez à travers la mer de brouillard, eux, ils descendent à travers cette mer d'incrédulité. Et là, ils voient que le malade n'est toujours pas guéri. Et il va dénoncer cette couche d'incrédulité qui plombe et qui fait qu'il n'y a pas de résultat. Et il va chasser ce démon, et le jeune est guéri. Et il dira, si vous n'avez pas pu le guérir, ben, c'est parce qu'il y a cette incrédulité ambiante. Et le ciel ouvert a fait la différence. Et un autre exemple qui est parlant, c'est la pêche miraculeuse. Il y a plusieurs récits, mais dans Luc 5, Jésus voit deux barques au bord du lac, et les pêcheurs sont descendus, ils lavent leurs filets. Et puis Jésus monte dans une des barques, parce qu'il y a tellement de monde que pour pouvoir parler, il va dans une barque. Puis depuis la barque, il parle à la foule. Et à un moment donné, il demande à Simon, il dit « Éloigne-toi un peu du bord ». Et Jésus s'asseye et il se met à enseigner les foules. Et puis ensuite, on voit au verset 4, il lui dit quelque chose. Il dit, mais quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance-toi, là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Et puis Simon, il répond, « Mais on a déjà fait ça toute la nuit, on a pêché toute la nuit en vain, et tu nous dis maintenant de le faire. » En fait, Pierre, il lui dit, « Mais on a déjà essayé, c'est bon, on a déjà prié X fois pour cet épileptique, enfin, pour prendre l'image, le parallèle. » Et là, c'est comme si Jésus disait, « Ouais, vous avez essayé, mais pas avec moi. » Et ils jettent leur filet au verset 6 et ils prennent un très grand nombre de poissons et les filets commencent à se déchirer. C'est vraiment interpellant. Il y a un deuxième récit, il y a deux fois un récit de la pêche miraculeuse, mais ça c'est dans Jean et c'est après la résurrection, où tout à coup Jésus est là puis il dit « Ah, vous avez essayé de jeter vos filets d'un côté, mais jette de l'autre côté de la barque. » Et du coup là ils disent « Oui, alors sur ta parole on jettera les filets. » Et il y a le miracle qui se passe, puis là c'est presque plus... le fait d'obéir avec foi, l'obéissance au Seigneur, même sans comprendre, c'est la foi qui fait que le miracle se produit. Mais là, qu'est-ce qui fait la différence? Toute la nuit, ils ont pêché sans succès. Et si ce jour-là, tout à coup, ça marche, c'est pas parce qu'ils ont jeté le filet autrement. C'est pas parce qu'ils ont trouvé une nouvelle stratégie d'évangélisation, pour dire comme ça, ou un nouveau truc qui vient de sortir. C'est les mêmes filets, c'est la même façon de faire. On va pas leur enseigner leur métier. Ils font comme la nuit, ils jettent leur filet en eau profonde et le résultat, là, ils sont pleins à craquer. La différence, c'est que Jésus est cette fois dans la barque. Jésus est dans la barque et les filets sont pleins. Et ce n'était pas le cas la nuit d'avant. Mais ils ont fait la même chose. Ce n'est pas qu'ils avaient mal fait pendant la nuit, mais le résultat est là parce que la présence de Dieu par Jésus est là dans la barque. Ils entendent Dieu leur parler, Jésus qui leur dit « Fais jeter encore les filets », ils pêchent et ça marche. Le semeur sème, s'il est là, ça pousse. Toi et moi, on prie pour un malade. S'il est dans le bateau, le malade est guéri. La différence, ce n'est pas la manière, ce n'est même pas forcément les mots, mais c'est la présence de Dieu et c'est l'instruction de Dieu. Et dans ces derniers trois messages que j'ai pu faire en fin d'année passée, on parlait justement de ce Dieu d'abord qui parle abondamment, mais aussi que c'était bien de regarder en haut, vers ce ciel, C'est Colossiens 3, chercher les choses d'en haut, vers ce troisième ciel où on va l'entendre nous dire « Vas-y, propose-lui la prière. Vas-y maintenant, c'est le moment. » Et je suis convaincu que Dieu va ouvrir, exaucer, et que c'est une année d'accomplissement. C'était le même jour, d'ailleurs, je n'avais pas prévu le dire, c'était le même jour que le 4 janvier, quand j'ai écrit cette pensée que je vous ai transmise. On était dans un centre médical avec Diane, et voilà qu'on rencontre quelqu'un que je n'ai plus vu depuis 15 ans dans la salle d'attente. On a parlé de différents problèmes de santé, de pourquoi il était là, en couple. Et puis, en fait, en descendant les escaliers, Diane, elle me dit, on va prier. Je dis oui, on descend et on a prié vraiment dans la rue pour eux. Et à un moment donné, il faut être sensible. On peut prier tout le temps, on peut semer tout le temps, on peut lancer les filets tout le temps. Mais quand on entend cette voix, quand on est connecté à Dieu, vas-y, vas-y. Il faut entendre cette voix de l'Esprit, vas-y, prie pour que Dieu agisse. Et Dieu, on ne va pas juste semer parce qu'il faut semer, on ne va pas juste prier pour les malades parce qu'il est dit de le faire, mais parce qu'en étant avec lui dans les lieux célestes, en entendant son cœur, ses désirs, on va le faire. Alors, il vaut mieux le faire une fois de trop que pas assez, ça c'est sûr, mais quand on entend Dieu nous parler, il y a vraiment un impact. Et alors qu'on a jeté nos filets X et X fois, peut-être sans trop de succès, tout à coup ça marche. Quand le ciel est ouvert, tout change. Et encore un exemple on parle plus précisément sur le fait de semer juste après, mais c'est l'exemple de la croix. Ce qui s'est passé à la croix, alors que l'atmosphère est en train de changer, juste avant que Jésus meure, le brigand qui a passé sa vie à faire du mal, tout à coup il croit. Il a une vie de débauche, il mérite d'être condamné à mort. C'est pas un bon gars, on n'a pas plus de détails, mais peut-être que sa famille, ça fait des années qu'il prie pour qu'il change de vie, qu'il retrouve le droit chemin, peut-être qu'il a un arrière-plan de gens croyants, peut-être pas du tout, hein, je ne sais pas. En tout cas, ça ne l'a jamais plus parlé de ça. Il a vu Jésus, sûrement entendu parler de Jésus, faire tous ses miracles. Ça fait 3 ans que Jésus, il tournicote, qu'il est par là, en train de guérir des malades, puis de prêcher. Lui, ça, il n'a pas changé de vie. Mais rien que d'être là, juste à côté de Jésus, il va croire. Pourtant, Jésus, il n'est pas en train de lui dire grand-chose. Mais il est dit que lorsque Jésus a rendu son dernier soupir, qu'il rendit l'esprit. Lorsque la vie le quitte, il est dit dans Matthieu 27, à ce moment-là, Jésus pousse de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint, il se déchire de haut en bas. La terre tremble, les rochers éclatèrent, des tombes s'ouvrirent et les corps de plusieurs hommes de Dieu qui étaient morts ressuscitent. Il y a une percée, le ciel s'ouvre, le voile a déchiré de haut en bas et cette puissance du ciel qui descend, qui déchire le rideau, qui empêche qu'on ait accès à Dieu, parce qu'il a tout payé. Mais cette puissance de vie, elle est tellement forte, et quand Dieu nous touche, c'est pour ça que des fois on explique pourquoi des fois on peut vivre quelque chose même dans notre corps quand Dieu vient. Je sais pas, on peut peut-être tomber ou trembler ou se mettre à genoux, ou bien pleurer, parce que la puissance de vie est tellement forte qu'il y a une réaction de notre corps. Là, on voit que la puissance de Dieu est tellement forte que même la terre tremble. La terre tremble. Et il y a même des morts qui ressuscitent, qui sortent des tombes. Si ce n'est pas la manifestation d'un ciel ouvert qui se déverse sur la terre, alors qu'est-ce que c'est? Le climat spirituel a totalement changé. Il a tourné. La victoire a été remportée. Et Jésus a tenu jusqu'au bout. Et au premier ciel, physiquement, c'est les ténèbres. C'est plutôt noir. Mais le climat spirituel, il était en train de changer. Et on le voit aussi dans Marc 15 que l'officier qui venait vérifier que Jésus était bien bel et bien mort à la croix, tout à coup, il va croire que Jésus est le Fils de Dieu. Marc 15, 39, en voyant Jésus mourir ainsi, l'officier romain qui se tenait en face de la croix s'écria, « Cet homme était certainement le Fils de Dieu. » Mais il n'a pas d'arrière-plan religieux, c'est un Romain qui baigne dans une culture romaine, païenne, où il y a plein de dieux et plein de débauches aussi. Et tout à coup, il croit et il proclame même que Jésus est le Fils de Dieu. Ce n'est pas juste émotionnel, il en a vu des gens être crucifiés. Mais un ciel ouvert amène la foi pour nous, pour agir, oser, et pour les gens qui nous entourent. Et là, le ciel s'ouvre, le voile se déchire, l'incrédulité disparaît, l'opposition spirituelle, elle fond. Et Matthieu parle même des soldats qui gardaient Jésus avec l'officier, et même qui ont dû s'opposer, ils l'amènent à la mort, quoi. Ils veulent l'exécuter par la croix. Tout à coup, ils croient que Jésus est le Messie. Les soldats qui sont avec cet officier. Lorsque le ciel s'ouvre, ce qui semblait impossible devient possible. Lorsque le ciel s'ouvre, ce qui semblait impossible devient possible. On a déjà entendu cette phrase. Mais je pense que ce n'est pas par hasard que la Bible nous donne justement les pires exemples d'un condamné à mort, brigand sur la croix, qui juste avant de mourir croit, ou cet officier romain, ennemi des Juifs, mais surtout exécuteur de Jésus, le bourreau. L'atmosphère spirituelle change tellement que les pires se tournent vers Dieu. Et avant que je continue dans mon message, je crois que Dieu veut donner l'espoir à plusieurs qui sont ici dans cette salle, à toi qui crois peut-être que tel proche, tel fils, tel parent, tel ami ne se convertira plus. Dieu veut te dire que c'est possible. L'officier romain, le bourreau de Jésus, le brigand qui était condamné à mort, ils sont tournés vers Jésus parce qu'il y a quelque chose dans l'air qui était là. Jésus était en train de remporter la victoire sur la puissance du mal. Et quand on déclare avec autorité que Jésus a la victoire et que le climat spirituel change et que le ciel est ouvert, ce qui paraît impossible devient possible. L'épileptique qui a une maladie aggravée, tout à coup il peut guérir. Ou la personne dans ton entourage, dans ta famille, pour qui tu pries puis qui ne se tourne jamais vers Dieu, il peut se convertir parce que l'atmosphère change. Amen. Prie pour un ciel ouvert et sème la vie autour de toi. Un autre exemple à la Pentecôte, un petit groupe de disciples, ils vont prier, ils sont 120 dans la chambre haute, ils prient, la percée vient, le ciel s'ouvre. Si ce n'est pas un exemple de ciel ouvert, de manifestation, où des flammes de feu viennent tellement comme image, tellement, enfin, dans la réalité, tellement c'est fort, ils parlent en langue, ils sont visités par le Saint-Esprit, tellement que les gens croient qu'ils sont ivres. Donc ils n'étaient pas juste assis sur leur chaise avec la tête à moins 10, ils étaient touchés, visités par Dieu. Et c'est la manifestation de la présence de Dieu qui est là, et dans cette atmosphère propice, avec ce ciel ouvert, quelqu'un a planté une graine. Pierre a semé en prêchant, et sa prédication a eu un impact énorme. Pas parce qu'il parlait mieux qu'avant, pas parce qu'il avait des meilleures idées qu'avant, pas parce qu'il était mieux préparé qu'avant, c'est venu soudainement, mais parce que le ciel était ouvert et que le Saint-Esprit était là. Ce qu'il a dit a eu un impact fou, énormissime, avec 3000 personnes qui se convertissent. Pourtant, les gens aussi, c'est les mêmes qu'avant. Jésus qui était venu sur un âne dans Jérusalem, il y a eu plein de choses qui se sont passées, ils ont sûrement entendu parler de ce Jésus. Rien que quand il a eu la multiplication des pains, il a mis qu'il y avait 5000 hommes. Donc si on compte les femmes et les enfants, ça fait 5000, encore 5000 femmes, puis 2000 enfants, pour dire comme ça. C'est la maladie, elle remplit, c'est 12 000 personnes. Jérusalem, à l'époque, on pense que c'est entre 20 et 30 000 personnes. Bien qu'ils disent aussi que des étaient venus exprès à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Mais il n'y avait pas que les 120 qui avaient entendu parler de Dieu, puis qui suivaient, ils avaient déjà entendu. Mais là, tout à coup, le ciel s'ouvre, il y en a 3000 qui se tournent vers Dieu. Et sûrement qu'ils avaient déjà entendu parler de ce Jésus, ou même vu des choses se passer. Ils n'ont pas juste entendu, mais ils se sont convertis, ils se font baptiser, et ils ont changé de vie, et c'est devenu des disciples. Et Jésus a semé en donnant sa vie, et Pierre, lui, a semé en parlant. Parce qu'il n'y a pas juste eu le Saint-Esprit qui est venu, une manifestation folle dans cette chambre haute, il a prêché, il a semé la vie dans ces gens. En gros guillemets, une grosse Pentecôte, ça ne suffit pas. Ces manifestations folles, elles ne suffisent pas, même si c'est génial, et puis je suis fan. Mais il a fallu que Pierre sème la parole et que ça porte du fruit. Et mon dernier point ce matin, c'est qu'on puisse prendre vraiment, voir les semences de vie. On a vu qu'on peut prier pour des malades en vain, qu'on peut pêcher des poissons en vain, même s'il y en avait plein dans le lac. On peut semer en vain, mais quand Dieu est dans l'affaire, tout change. Et on vient de voir ensemble l'impact d'un ciel ouvert. Et justement là, c'est là qu'il faut justement semer et moissonner. Mais c'est quoi semer ? C'est quoi semer ? On a vu des exemples, Jésus qui sème en donnant sa vie, Pierre qui sème en prêchant, c'est une façon de semer. Mais c'est vrai qu'on pourrait se dire que Dieu pourrait agir de façon souveraine lui-même. Parfois, il décide de le faire, il est assez puissant pour ça. Mais il a choisi de collaborer avec nous, et ce principe de semer, moissonner dans sa parole est cher à son cœur. Parce qu'il pourrait parler lui-même. Les premières tables de la loi, il a gravé lui-même avec son doigt dans la pierre. Ou bien quand Saul de Tarse, qui est devenu Paul, il se convertit, c'est une voix qui vient du ciel, une grande lumière folle, et il tombe au sol. Et personne ne lui a parlé de Dieu. C'est venu, Dieu peut le faire, il est assez puissant, Dieu, pour se passer de nous. Mais dans la plupart du temps, il a envie de faire avec ses amis, avec nous, qu'on puisse semer la vie, et quand on sème, ça pousse. Rien que pour un ou deux exemples très rapides, les plaies d'Égypte, Dieu aurait pu faire amener plein de plaies d'Égypte pour que finalement le pharaon y cède. Non, il a utilisé un gars imparfait, qui avait déjà même tué, Moïse, pour être ce négociateur qui allait lui devoir semer des paroles de foi, dire les choses au pharaon pour qu'à un moment donné ça se tourne. Ou par exemple le roi de Babylone, quand le peuple était déporté, c'est Daniel ensuite qui va interpréter un rêve et puis qui va changer les choses. Mais Dieu qui a envoyé un rêve au roi de Babylone, il aurait pu lui donner le rêve directement clair. Il utilise Daniel qui va interpréter ce rêve bizarre, qui veut dire quelque chose. Dieu aime collaborer, et là il aimait bien le faire avec Daniel. Il aurait pu directement donner le bon rêve au roi. Dieu sème dans le sens qu'il va utiliser les dons qui sont en nous. Et Daniel, lui, il va semer avec les dons qu'il a d'interpréter les rêves. Sa connexion avec Dieu, un immense pas de foi. Et c'est une partie de réponse. Semer, c'est utiliser les dons qu'il y a en nous. Et lors de la multiplication des pains, et c'est fou que Denis en ait parlé dans la louange, Jésus prêche, et je suis convaincu que le ciel est ouvert. Il est là, il y a le Saint-Esprit qui est là, les gens sont touchés. L'atmosphère est certainement une atmosphère de foi. Tout est réuni pour un miracle. Il n'y a pas assez à manger. Dieu, il ferait comme ça. Jésus pourrait faire comme ça. Puis, il y a plein de pain tout à coup. Il suffit de venir se servir. Non. Il va utiliser de nouveau quelqu'un, déjà les disciples, qui vont devoir s'impliquer, qui vont devoir croire. Mais surtout, ce jeune gars qui va donner ses 5 pains et ses 2 poissons et qui va donner tout ce qu'il a. Il va semer les dernières graines qu'il a et Dieu va multiplier. Pourtant, des fois, on a l'impression de perdre ce qu'on a. On préférerait que Dieu fasse tout seul, puis que nous, on soit spectateurs de ça. Parce que si on fait le petit calcul, 5 pains plus 2 poissons, moins 5 pains et 2 poissons, ça fait 0. Non, là, ça fait des milliers de personnes qui sont nourries par ces pains et ces poissons. Quand le climat est propice, quand la présence de Dieu est là, par ce Jésus qui prêche, qui libère la révélation, il a quand même fallu semer pour que le fruit vienne. Semer ce qu'il y a à soi, ces 5 pains, ces 2 poissons. On aimerait tellement qu'il nourrisse la foule tout seul, qu'il envoie des cailles comme dans le désert, comme il l'a déjà fait. Il peut le faire, mais il aime utiliser toi et moi et son Église pour qu'on sème la vie autour de nous. Il pourrait guérir quelqu'un comme ça du ciel, mais il aime quand c'est toi qui vas semer en priant et en proposant la prière à quelqu'un. On aimerait tellement. Du style, tu vas à Marin Centre, tu marches, tu prends l'escalator, tous les gens qui ont des béquilles, tout ça, sont tous guéris, ça va tout seul. Mais Dieu, il l'a fait avec l'ombre de Pierre. Quand Pierre marchait, son ombre guérissait les malades. Il est assez puissant pour le faire. Acte 5, 15, pour ceux qui veulent checker. Mais aussi, dans le réveil des Pays de Galles, il y a des gens qui marchent, et rien que de marcher dans la rue à côté de l'église où il y a un message qu'ils n'entendent pas, ils tombent au sol confondus, ils se repentent de tous leurs péchés. Tellement l'atmosphère est forte. Il peut le faire. On a envie qu'il le fasse. Mais Dieu fonctionne souvent, ou d'ici que ça vienne ceci, avec le principe de semer puis de moissonner. Et c'est lui-même qui dit aux disciples, demandez au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et même si moi je garde en moi ces rêves de manifestation puissante, comme on vient de le dire, puis que les gens tombent à genoux simplement touchés par Dieu, gloire à Dieu, on aimerait vraiment, je mets zéro bémol à ça, je veux y croire. Mais Jésus lui-même, il a semé, il a prêché, il est aussi allé prier pour les malades, il s'est déplacé quelque part. Quand il va prier pour la fille de Jaïrus, il ne le fait pas juste comme ça, mais il va sur place, il prie pour elle, il dit mais non, elle n'est pas morte, elle dort, et il prie. Il sème la vie, il parle, il témoigne, il donne des paraboles, il va prier, il se déplaçait. Et je suis convaincu que Dieu nous amène pas juste à rester, pour arriver proche de la conclusion, à rester à ce premier ciel, donc nos circonstances de la vie, et de subir les circonstances, mais il nous amène justement dans sa présence, comme Jésus et les disciples sur cette montagne au 3e ciel, pour régner avec lui, et pas pour lui décrire de long en large tout ce qui ne va pas avec nos prières, mais depuis là, proclamer vraiment ce que Dieu veut faire, et surtout dégager l'atmosphère, comme on a pu le faire à un moment donné au début de ce message. Mais ce que je sentais, c'est qu'en subissant pas les atmosphères, en pratiquant le fait de changer l'atmosphère dans les lieux où nous sommes, il y a ensuite la semence à planter. Et le reste, c'est Dieu qui fait, c'est lui qui fait pousser. Et je crois que Dieu désire pour nous, pour cette année, qu'on puisse être des semeurs. Pas des semeurs, mais des semeurs. Des semeurs, il y en a assez. Des semeurs de vie, des semeurs de paroles d'espoir, des semeurs de salut, des semeurs de délivrance, des semeurs de guérison, des semeurs de sagesse, des semeurs d'amour, que ce soit par un sourire, par un témoignage, par une pensée, par une aide, elle lui fait pousser. Il peut le faire tout seul, mais il a envie de faire par toi, il a envie de faire par moi. Dieu désire collaborer une fois que le ciel est ouvert. Et je vais finir avec ça dans Actes 3.1, lorsque Pierre et Jean se rendent au temple. Ils sont justement en train d'y amener un paralytique depuis sa naissance, et eux, ils arrivent, puis il est juste là. Et je pense que ce n'est pas la première fois, vu qu'il est mis qu'il était là tous les jours. Je ne pense pas que c'est la première fois qu'il voit. Et alors qu'ils allaient dans la cour, l'homme paralysé les interpelle pour demander la charité, l'aumône. Et là, Pierre et Jean lui disaient, on t'a bien vu, mais on n'a rien, on n'a rien. Et là, qu'est-ce que Pierre dit? Il dit, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et il a semé quelque chose qu'il a en lui. C'est des semences de vie, c'est comme les 5 pains et les 2 poissons. Et ce que Dieu nous demande, c'est qu'on sème ce qu'il y a en nous. La vie que tu as en toi, qu'on puisse la semer autour de nous. Ce que j'ai, je te le donne. Et le proverbe 11:25 nous dit que celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance. Celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Sera lui-même arrosé. Proverbe 11, verset 25. Ou encore dans 2 Corinthiens, celui qui sème peu moissonnera peu, mais celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Alors on peut semer à tout vent, mais lorsqu'on sème parce qu'on a reçu une impulsion de Dieu, puis qu'on sent l'élan du Saint-Esprit, puis qu'on le fait, l'impact est différent. Et pour conclure, alors que je termine le groupe, vous pouvez déjà peut-être venir, ou je ne sais pas comment on va poursuivre, qu'on puisse simplement retenir cette pensée que cette année, ou maintenant, ou dans ta vie, ou dans ma vie, c'est le temps de commencer de semer la vie autour de nous et de multiplier. Et je sentais que Dieu ne voulait pas qu'on le fasse juste parce qu'il faut, mais parce qu'on entend Dieu le lui dire. Et je trouve tellement hallucinant comment Dieu nous parle en tant qu'Église sur le fait que c'est le moment de semer la vie plus loin. Des fois, on a semé alors que le climat spirituel n'était pas propice. Moi, si je vais semer du gazon demain, je ne pense pas que ça va être bien. Dieu nous amène, avec ses messages intentionnels, à ne pas juste subir la météo spirituelle, mais à aller au ciel pour proclamer un changement de climat. Et un changement de climat, pas juste pour du beau temps, mais pour pouvoir semer la vie et pour que la vie se multiplie. Et si on sème avec un ciel fermé, ça ne pousse pas. Et si on proclame un ciel ouvert, mais qu'on ne sème pas, non plus. Je propose qu'on puisse se lever, j'ai envie de prier vraiment pour terminer ce message. Seigneur, on réalise qu'il y a une intention que tu es en train de nous parler. Seigneur, tu nous l'as fait personnellement, tu l'as confirmé par plusieurs, par le message il y a 15 jours, par des textes tellement précis. Et Seigneur, on ne veut pas juste collectionner des informations sur toi, mais on veut rentrer dans les temps et les saisons et de ce que tu es en train de vouloir nous faire vivre en tant que personne et en tant qu'Église. Et Seigneur, moi je crois que cette année, comme on l'a dit au départ, c'est une année d'accomplissement où ce qu'on sème va pousser, parce qu'il y a une puissance de vie. Et on veut se connecter à toi, Seigneur. On veut être connecté à ce ciel. Si on a prêché il y a 2 mois ou d'un ciel ouvert, ce n'est pas juste pour voir le ciel bleu, mais c'est pour qu'il y ait une action sur la terre. Et Seigneur, moi j'entends aujourd'hui déjà pour moi, je vais être interpellé moi-même, je me prêche d'abord pour moi, mais je crois que pour chacun, il y a peut-être quelque chose à prendre. Seigneur, Seigneur, même si j'aimerais que tu fasses tout seul, que le ciel est ouvert, puis vas-y, j'aimerais te dire, Seigneur, je suis disponible, je veux être disponible cette année pour être un semeur de vie, par des paroles de témoignage, par des prières de guérison, par des prières de libération, par un sourire, par ma présence, par une aide, ou simplement en obéissant aux impulsions que j'entends de toi, Papa, au ciel, alors que je suis juste assis avec toi là-haut. Tout simplement, je ne veux pas en faire plus, mais je ne veux pas en faire moins non plus. Et je veux être avec le pouls de ton cœur. Et je te prie, Seigneur, qu'on puisse être sensible à ce que toi, tu désires. Qu'on ne puisse pas juste subir puis prier comme on le sait le faire au premier ciel, mais qu'on puisse chercher ta présence et qu'on puisse semer ta vie dans un terrain favorable. Et tu vas agir. On le proclame et on le croit. Amen.